cœur de notre vie, il y a le nom qui est au-dessus de tout nom. Au cœur de notre faiblesse, il y a la résurrection qui attend sa plénitude. Au fond de nos discordes et de nos inquiétudes, il y a un souffle qui remet tout en ordre. Au fond de nos questions, il y a une assurance qui vient d'ailleurs. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Bienvenue à chacun d'entre vous pour ce culte, qui est aussi une journée d'éducation biblique. Donc, bienvenue tout particulièrement à vous, les jeunes et les enfants. Un certain nombre d'enfants et de jeunes sont précisément dans une autre sortie, celle des scouts. Il y avait concurrence d'activités ce jour-là. Tant mieux d'une certaine manière qu'il y ait une diversité de propositions. Bienvenue aussi à leurs parents. Et je suis heureux d'accueillir ce matin Élian Cuvillier, qui est professeur à l'Institut protestant de théologie, responsable du master professionnel, donc de la formation des futurs ministres pasteurs de notre Église. Nous sommes réunis ensemble ce matin, en dépit des absences. Voilà, c'est un peu compliqué avec ce marathon de Paris qui a certainement empêché un certain nombre de personnes de nous rejoindre. Nous sommes heureux d'être ensemble pour la prière, pour l'enseignement et pour la communion fraternelle. Je vous invite à la prière. Prions. Nous avons confiance en toi, Dieu notre Père. Nous avons confiance en toi, même si nous ne te voyons pas. D'autres nous l'ont dit, ce sont des témoins, et puis nous le pressentons aussi, tu es la vie. Tu es la vie infinie, tu es la vie éternelle. Tu es la vie comme un petit moteur qui, en nous relance, une main qui nous entraîne. Nous avons confiance en toi, Dieu notre Père, et nous savons que nous pouvons nous abandonner, nous reposer sur toi, sans crainte que tout s'écroule, sans crainte que tout s'en aille. Oui, Dieu, toi que nous appelons notre Père, nous croyons que tu es toujours avec nous, fais que nous ne l'oublions pas. Amen. Je vous invite à vous lever pour bénir l'Éternel. Vous trouverez les spontanés dans le psautier français. Nous allons maintenant entrer dans la louange, et c'est Toscane qui va nous lire le texte prévu pour louer le Seigneur.
Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs. Vous, tous les anges, louez-le, louez-le, tous les univers. Louez-le, soleil et lune, louez-le, tous les astres de lumière. Vous, cieux des cieux, louez-le, et les eaux des auteurs des cieux, qui louent le nom du Seigneur, sur un ordre, ils furent créés, c'est lui qui les posa pour toujours, sous une loi qui ne passera pas. Louez le Seigneur depuis la terre, monstres marins, tous les abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent ouragan qui accomplit sa parole, les montagnes et toutes les collines, les arbres des vergers, tous les cèdres, les bêtes sauvages et tous les troupeaux, le reptile et l'oiseau qui vole, les trois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre, tous les jeunes gens et les jeunes filles, les vieillards comme les enfants, qui louent le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom. Alléluia.
Merci, merci Toscane. Et nous allons poursuivre cette louange avec le psaume 24, dans le psautier français. Le psaume 24, nous chanterons les strophes 1, 2, 3 et 4. Je vous invite à vous asseoir. Nous écoutons la volonté de Dieu. Dans la première lettre de Jean, il est écrit « Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et celui qui aime Dieu, eh bien, qu'il aime aussi son frère. Amen. Seigneur notre Dieu, nous attendons avec impatience le royaume de paix dont tu annonces la venue. Mais la violence demeure dans nos vies et parfois nous ne la voyons même pas. Lorsque les autres nous font mal, trop souvent nous cherchons d'abord à nous venger. Alors Seigneur, nous t'en prions, Pardonne-nous, guide-nous chaque jour pour que nous puissions connaître ta paix et en devenir les artisans. Viens changer nos cœurs, fais-nous voir ta miséricorde. Amen. Laisse couler en toi la source et tu sauras combien tu avais soif. Laisse passer en toi la vie et tu sauras combien tu étais mort. Laisse respirer en toi le désir et tu sauras combien tu étais lié. Laisse vivre en toi l'amour et tu sauras combien tu étais seul. Laisse naître en toi une présence et tu sauras combien tu étais perdu. Alors que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne la joie de vivre en sa présence. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter à Dieu notre reconnaissance. Confessons notre foi. Je crois que Dieu crée toute vie. Il est amour. Il donne sens à nos existences. Il est entré dans l'histoire des hommes par sa parole. Je crois que Jésus a vécu dans une communion totale avec Dieu son Père. Il était habité. Il est l'image de Dieu sur terre pour nous les hommes. Je crois que le souffle de Dieu qui habitait Jésus demeure en chacun de nous. Je crois que nous sommes tous enfants de Dieu, appelés à la justice et à la fraternité. Je crois au témoignage de la foi universelle et je crois à la fécondité de la prière. Je crois que nous sommes appelés à une vie nouvelle et qu'elle s'épanouira en vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité.
Le texte que je vous propose ce matin pour la prédication, dans ce temps qui suit le dimanche de Pâques, nous allons rester un petit peu dans cette dynamique et je vous propose de lire dans l'évangile de Jean au chapitre 20 et je lis les 18 premiers versets de ce chapitre 20 de l'évangile de Jean. Le premier jour de la semaine, à l'aube, alors qu'il faisait encore sombre, Marie de Magdala se rend au tombeau et voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court, rejoint Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis ». Alors Pierre sortit ainsi que l'autre disciple et ils allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se penche et voit les bandelettes qui étaient posées là. Toutefois, il n'entra pas. Arrive à son tour Simon-Pierre qui le suivait. Il entre dans le tombeau et considère les bandelettes posées là et le linge qui avait recouvert la tête. Celui-ci n'avait pas été déposé avec les bandelettes, mais il était roulé à part dans un autre endroit. C'est alors que l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts. Après quoi, les disciples s'en retournèrent chez eux. Marie était restée dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se penche vers le tombeau et elle voit deux anges, vêtus de blanc, assis à l'endroit même où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. « Femme, lui dirent-ils, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis. » Tout en parlant, elle se retourne et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Mais elle, croyant qu'elle avait affaire au gardien du jardin, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », ce qui signifie « maître ». Jésus lui dit, « Ne me retiens pas ou ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pour toi, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. » Marie de Magdala vint donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur et voilà ce qu'il m'a dit. » Je vous invite à chanter au cantique 151. Nous chantons les quatre strophes du cantique 151.
De sa sainteté, ô commençons sur la terre.
Prions. Ô notre Dieu, tu es un Dieu étonnant, car tu n'es jamais là où nous te cherchons. Nous t'attendons comme un roi puissant, et puis voici que tu viens comme le plus humble des hommes. Nous pensons pouvoir t'enfermer dans nos savoirs, nos croyances, ou même dans nos doutes. Et puis voici que tu es différent de l'image que nous avions forgée de toi. Ô notre Dieu, tu es un Dieu étrange, car toujours tu viens par des chemins détournés, et jamais sur toi on ne peut étendre la main. Alors, comment te reconnaître si toi-même tu n'ouvres pas notre cœur? Viens toi-même parler au cœur des Écritures. Par ton Saint-Esprit, viens toi-même au plus profond de notre existence, écrire les mots qui font vivre.
La résurrection du Christ au matin de Pâques est, qu'on le veuille ou non, qu'on y croit ou non, l'événement fondateur de ce qui s'appelle aujourd'hui le christianisme. La foi chrétienne vit ou meurt de confesser ou de nier la résurrection du Christ. Elle trouve son sens dans la conviction que sa résurrection est la garantie que la vie l'emporte sur la mort. Et cependant, le moins que l'on puisse dire est qu'il n'est pas facile de proclamer Christ et ressuscité. À la fois parce que dans ce monde, encore et toujours, la mort semble l'emporter sur la vie et point n'est besoin de prendre un exemple, nous en avons tous en tête, où la mort l'emporte sur la vie. Et puis peut-être surtout, il faut aussi l'avouer, parce qu'affirmer la résurrection ne va pas de soi pour notre intelligence et notre rationalité. Mais ne nous trompons pas, cela ne date pas d'aujourd'hui. À l'époque de Jésus, les Grecs déjà trouvaient absurde l'idée même de résurrection. Et au fond, on les comprend. On les comprend. Alors ce dimanche qui suit Pâques, comme tous les dimanches, nous confronte une nouvelle fois à la question de la résurrection du Christ. Nous confronte à la question de la résurrection du Christ. Mais quelle est la question ? Je veux dire par là, il y a deux manières possibles de la poser, cette question. Soit Que s'est-il passé exactement? Soit, que signifie cet événement? Et je laisse pour l'instant l'alternative ouverte. Et je m'aventure dans le texte que nous avons lu ce matin. Il se présente comme un témoignage de ce qui est arrivé, selon l'évangéliste Jean, en ce matin de Pâques. Ce témoignage ne dit pas tout. Il est partiel, c'est pourquoi d'ailleurs il y a 4 évangiles, sans oublier l'apôtre Paul. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la mise en scène de 3 interprétations possibles de ce constat, j'allais dire que Christ est ressuscité, non, de ce constat que le tombeau est vide, puisque c'est d'abord de cela dont il s'agit au matin de Pâques. Et ces 3 témoignages, ces 3 interprétations sont celles de Marie-Madeleine, celles de Pierre et celles de ce fameux disciple que Jésus aimait. 3 interprétations qui constituent 3 postures possibles devant cet événement fondateur qu'est la proclamation « Christ est ressuscité ». Je commence par Marie-Madeleine parce que c'est le personnage qui ouvre le récit et qui le clôture et qui est d'une certaine manière le personnage principal de cette histoire. Devant le tombeau, elle voit la pierre rouler. Elle n'entre pas, comme le feront plus loin Pierre et le disciple bien-aimé. Mais aussitôt, sans même vérifier que le corps n'est plus là, elle interprète. Et elle interprète Marie-Madeleine à partir de son désir. La pierre roulée, pour elle, ne peut signifier qu'une seule chose. Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau. Et nous ne savons où ils l'ont mis. Notez qu'elle commence par dire « nous ». Et puis plus tard, elle se penche, voit 2 anges auxquels elle dit en pleurant « ils ont pris mon Seigneur ». Et je ne sais pas où ils l'ont mis. Et là, vous avez remarqué, elle est passée en jeu. Enfin, face à Jésus, qu'elle ne reconnaît pas, elle s'écrie, si tu l'as pris, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le chercher. Et ce n'est évidemment que lorsque Jésus l'appelle par son nom qu'elle le reconnaît. Chez Marie-Madeleine, c'est donc une obsession littéralement aveuglante de l'enlèvement du corps de son Seigneur. Et cela traduit le fait que Marie-Madeleine est liée à Jésus d'un amour authentique, passionnel, charnel, corporel. N'est-elle pas allée au tombeau en ce matin alors que les disciples sont restés cloîtrés à Jérusalem ? Mais un amour qui ne peut justement lui permettre d'envisager devant la pierre roulée autre chose qu'un vol. On lui a pris ce qui lui appartenait. Elle ne pense qu'à une chose, le corps de son Jésus, son Seigneur à elle. Oh, bien sûr, il est mort, mais elle a au moins un corps, peut-être à voir, peut-être à toucher. En tout cas, elle le possède. Il lui appartient, même disparu. Elle pourra le vénérer à jamais. Du coup, pour elle, la pierre roulée signifie que, en quelque sorte, quelqu'un est venu avant elle et lui a pris l'objet de son désir, de son amour, de sa soif de posséder. Au fond, pas de résurrection pour Marie-Madeleine si quelque chose ne se déplace pas en elle, qui la dépossède de ce corps qu'elle s'est en quelque sorte approprié. C'est pourquoi sans doute Jésus lui dira « Ne me touche pas !» Ajoutant aussitôt « Je ne suis pas encore retourné vers mon Père. » Pas encore, Marie. Ce qui veut dire d'ailleurs au passage que l'acte de vouloir le toucher n'est pas négatif en soi. Sinon, il n'y aurait pas ce « encore ». Ce n'est pas le moment, mais tu peux donc continuer à me désirer. Disons-le comme une femme aime un homme et comme un homme peut aimer une femme. C'est cela qui se joue chez Marie. Mais la foi de Marie, bien sûr, c'est le désir profond de rencontrer son Seigneur, j'insiste, de l'aimer à la manière dont les hommes et les femmes s'aiment, le désirer avec son corps. Mais dans cet écart que crée Jésus entre son désir et l'accomplissement de celui-ci, un espace se crée et permet à Marie de devenir témoin. Le premier, je devrais dire la première, témoin de la résurrection. Vous voyez, Marie-Madeleine est proche de Jésus parce qu'elle le désire de toute la force de son corps et de ses sens. C'est incarné chez Marie, la foi en Jésus. Mais pour le rencontrer vivant, il faudra qu'elle accepte qu'il ne lui appartient pas, qu'il n'est pas à elle, que s'il n'est pas là dans le tombeau, ce n'est pas qu'on le lui a volé, et qu'elle accepte aussi par la suite de différer son désir de le toucher. Croire qu'il est ressuscité, c'est croire qu'il ne lui appartient pas, mais qu'il en est le témoin. Un désir que rien ne pourra désormais faire taire jusqu'à la fin. Celui qui est vivant, qui l'envoie vers les autres, a pris la place de celui qui était mort et dont elle possédait, dont elle pensait posséder jalousement le cadavre. Parfois, aimer l'autre, c'est le tuer parce qu'on le possède. Et ce que Marie doit découvrir, c'est que la résurrection, c'est aimer sans posséder et sans croire qu'on vous a volé ce que vous aimiez. Deuxième interprétation, celle de Pierre. Il entre, le premier parmi les pères, et il voit. Il voit, mais le verbe grec utilisé n'est pas le classique « orao », mais « théorein », vous savez, qui a donné « théorie ». Et nos traductions traduisent tout à fait pertinemment « il considère ». Il voit, c'est-à-dire il considère plein de choses. Le texte est très précis, il entre dans le tombeau, il considère les bandelettes posées là, le linge qui avait recouvert la tête, et puis celui-ci, n'avait pas été déposé avec les bandelettes, mais il était roulé à part dans un autre endroit, comme c'est précis. Pierre, c'est l'exégète, c'est le théologien, l'intellectuel, l'herméneute. Ça fait savant pour dire celui qui interprète. Mais il n'est pas pris dans la passion amoureuse, Pierre. Il rationalise, il liste tel un enquêteur tout ce qu'il y a à voir. L'ensemble des choses qu'il faut considérer pour se faire une opinion qu'il faudra analyser. Et que va-t-il faire de tout cela? Le texte ne nous en dit rien. Mais par contre, Pierre ouvre 20 siècles possibles d'interprétations plus ou moins pertinentes de tous ces éléments. Les bandelettes, le linge roulé, les unes séparées de l'autre. Avec Pierre, c'est le commencement du débat sans fin sur les faits. Que s'est-il réellement passé ce matin-là? Débat stérile, en ce sens que depuis 2000 ans, il ne mène strictement à rien. Point n'est besoin d'en dire plus. L'évangile est d'ailleurs silencieux sur ce point, sinon ceci. Chaque fois que nous nous posons la question du comment cela a-t-il bien pu se passer? Que restait-il donc dans ce tombeau? Et quelle que soit la réponse que nous apportons, c'est possible parce que, ou c'est impossible parce que, oui, chaque fois que nous considérons les choses, avec notre seule raison, du point de vue de la foi, nous faisons fausse route. Parce que du point de vue de la raison, la résurrection du Christ reste une folie. C'est inexplicable, c'est absurde. Ce n'est donc pas de ce point de vue-là qu'il faut l'aborder. Et au passage, voyez que nous avons la réponse à notre alternative du début. La question n'est donc définitivement pas « que s'est-il passé ?» mais bien « que signifie pour moi ce qui advient ce matin-là dans le texte que je suis appelé à écouter ?»
Ce que confirme le troisième personnage de notre récit, le porteur de la tradition joannique, celui dont le chapitre 21 dira « C'est celui qui a vu ces choses et nous savons que son témoignage est vrai. » Il entra, nous dit le texte. Il vit et il crut sans commentaire. Ou plutôt si, le verset qui suit, il n'avait en effet encore pas compris l'Écriture qu'il dit qu'il doit ressusciter. Le disciple bien-aimé n'est pas encore un croyant qui comprend les Écritures. Il est dans l'expérience fondatrice où une révélation se fait et où il voit, orao cette fois, il voit lui. Il ne considère pas, il voit et il croit. Alors vous me direz, il voit quoi ? Et il croit quoi ? Il voit sensiblement la même chose que Pierre, c'est dit juste un peu avant dans le texte. Mais comme le texte ne précise pas qu'il considère ce qu'il voit, c'est-à-dire les objets présents dans le tombeau, on peut alors penser que ce qu'il voit, c'est qu'il n'y a rien à voir. Rien d'essentiel à voir. Ce qu'il voit, c'est l'absence du corps, signifié effectivement par les bandelettes et le linge. C'est en effet la toute première chose étonnante que Marie-Madeleine avait supposée. Il n'est plus là. Oui, Marie-Madeleine n'avait même pas eu besoin, elle, de voir l'absence. Son désir est tellement fort qu'elle avait supposé l'absence et que ça lui posait problème. Le corps n'est plus là. Pierre, lui, voit les objets et réfléchit. Il considère, il théorise. Le disciple voit l'absence, le vide, et il croit. Alors, deuxième question, mais il croit en quoi ? On ne nous dit pas qu'il croit en Jésus. On ne nous dit même pas qu'il croit qu'il est ressuscité. Il croit. Alors, puisqu'il n'y a rien, n'ajoutons rien, mais traduisons autrement. Il voit et il fait confiance. Il voit et il fait confiance. Il ne cherche pas d'explication. Ce qui est en train de se passer est inattendu. Le corps n'est pas là. On ne peut le trouver là puisqu'il n'y est pas. Peu importe les objets qui restent. Pas de vol supposé, mais la confiance. Voilà l'effet de la résurrection, ou plutôt, voilà l'effet de l'absence dans le cœur du disciple que Jésus aimait. Pas d'apparition, pas de vol supposé, mais une absence qui ouvre vers la confiance. Quel paradoxe ! Une absence qui ouvre des possibilités, un possible. Ne pas toucher Jésus permettra à Marie-Madeleine, une fois qu'elle aura reconnu son Seigneur, de se projeter ailleurs, comme témoin. Pour le disciple que Jésus aimait, c'est l'absence du corps qui ouvre la possibilité d'autre chose. Pas de preuve, pas un corps à embaumer, pas même les objets à examiner, pas de revenant à contempler. Non, une absence qui crée la foi. Le vide, le rien qui rend tout possible. Qui ne sature pas donc, qui ne comble pas, mais qui permet la confiance. C'est cela ce que, juste après, l'évangéliste Jean essaiera de dire à travers le fameux personnage bien connu de Thomas, à qui le ressuscité dira « Heureux celui qui n'a pas vu et qui a cru ». Ne pas voir et croire. En fait, le premier heureux, c'est bien le disciple bien-aimé, porteur de la tradition joannique. Il est heureux parce qu'il n'a pas vu le ressuscité et qu'il a cru. Plus exactement, il a vu le manque, l'absence, le rien, le vide, et il a cru. Il a cru avant de voir. Que signifie tout ceci pour nous aujourd'hui ? Que nous disent ces trois personnages ? J'insiste sur un premier point.
théoriser sur ce qui a bien pu se passer est stérile du point de vue de notre existence. Oh, ça remplit des rayons de bibliothèque et ça fait vivre des exégètes, des théologiens, des penseurs, des philosophes. Mais du point de vue de l'existence, il est à craindre que cela ne mène qu'à une impasse. Car cela évite de se poser la question essentielle qu'heureusement théologiens, exégètes et philosophes se posent aussi, parfois, souvent, peut-être même, on l'espère, que signifie pour moi, qui me dit chrétien ou pas, la confession Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Ce que Luther disait à sa manière forte, je cite, « Quand tu lis le Christ est ressuscité, ajoute aussitôt « Je suis ressuscité » et tu es ressuscité avec lui. Car il faut que nous soyons rendus participants de sa résurrection. Et il termine, ne pas apprendre cela, c'est ne rien apprendre du tout. Quand tu dis Christ est ressuscité, ajoute, je suis ressuscité avec lui. Second point, croire que Christ est ressuscité, c'est être dépossédé de quelque chose que nous pensons notre. Paradoxe important. Le corps de Jésus ne nous appartient pas. Certes, il est bien notre Seigneur, mais il n'est pas à nous. Il est notre Seigneur, mais il n'est pas à nous. Il nous échappe. Et devenir témoin de sa résurrection, c'est le désirer sans le toucher, sans le posséder, sans qu'il soit à nous. C'est-à-dire, c'est l'offrir au monde comme celui qui est mystérieusement présent à nos côtés, comme celui qui se fait reconnaître dans l'appel de notre nom, Marie, mais qui ne nous appartient pas. Pas comme une vérité que l'on possède, mais qui est morte comme un cadavre. C'est cela que nous dit l'expérience du disciple bien-aimé. L'absence ouvre à la confiance. Quelque chose devient possible. La vie peut l'emporter. Le tombeau est vide. C'est cela, Pâques. Ce n'est pas l'apparition qui fonde la foi. C'est l'absence dans le tombeau et la parole qui est adressée à Marie. La proclamation pascale, c'est que du possible s'ouvre dans un monde fermé. Que l'absence et le vide sont créateurs de possibilités nouvelles et ignorées jusque-là. Pour nos vies singulières, mais aussi pour notre communauté et pour le monde. Voilà ce à quoi nous sommes conviés ce matin. Entrer dans le tombeau, voir et croire. Le tombeau de nos vies fermées, mortes, décevantes. Et considérer que le Christ n'y est pas, n'y est plus. Qu'il en est sorti, non pas pour nous fuir, mais pour nous attendre dehors, en dehors de ces lieux où nous nous enfermons en nous-mêmes. Luther disait que le péché, c'est d'être recroquevillé sur soi-même, enfermé dans son tombeau, et nous appeler, comme il le fait avec Marie-Madeleine, par notre nom. Nous appeler non pas pour se donner à nous afin que nous le possédions jalousement comme notre bien, mais nous redresser pour que nous allions proclamer à ses frères qu'il est monté vers le Père, qui est aussi notre Père, c'est-à-dire en somme, pour que nous allions proclamer une fraternité nouvelle, non pas fondée dans notre bonne volonté, nos bons sentiments, mais dans l'espérance d'une vie ouverte par un Père aimant et accueillant. Une vie qui, malgré les apparences contraires, et elles sont tous les jours contraires, l'emporte à jamais sur la mort. Amen.
Je vous invite à chanter au cantique 147 dont nous chantons les quatre strophes. Cantique 147.
Le Sauveur est ressuscité, alléluia, l'enfer succombe, alléluia, alléluia, plein de gloire et de majesté, Jésus triomphe de la tombe, alléluia, alléluia, alléluia. Mort, ô donc, et ton aiguillon, sépulcre, ô donc, et ta victoire, alléluia, alléluia. Dans son rapide tourbillon, le temps nous entraîne à la gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Mort est vaincu à jamais, Jésus a délivré l'Église. Alléluia, alléluia. Elle est sauvée, elle est en paix. Par son sang, il se l'est acquise. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, notre Rédempteur. Qu'à ton nom tout genou fléchisse. Alléluia, alléluia. Et que la terre, ô mon Sauveur, pour t'adorer au ciel s'unisse. Alléluia, alléluia.
Bonjour à chacun de vous et merci d'être présent. Je remercie naturellement Élian Cuvillier pour sa prédication et j'espère que nous arriverons à vivre jour après jour cette force du Christ ressuscité. Donc le groupe de l'éducation biblique s'est retiré, mais il y a d'autres choses à vous dire, comme le fait qu'il y a un accueil et une rencontre à l'issue du culte dans la grande sacristie. Venez très nombreux et je vais passer tout de suite la parole à la route qui a quelque chose à nous dire.
Bonjour mesdames et messieurs. Certains nous reconnaissent peut-être, nous sommes les aînés de l'oratoire et avons pour projet d'organiser un voyage humanitaire en été 2019. Pour financer notre projet par nous-mêmes, ce qui nous tient vraiment à cœur, nous accomplissons plusieurs services et entre autres, nous vendons des gâteaux à l'entrée du temple aujourd'hui. Donc vous pouvez venir nous voir, nous vous en serions très reconnaissants. Merci beaucoup.
Merci à vous. Et donc pour ceux qui veulent nous suivre dans les après-midi de l'oratoire, justement après notre déjeuner, vous pouvez en guise de gâteau et de dessert prendre des gâteaux auprès de la route. Cela les aidera. Donc Étienne Trouvert et moi-même, nous vous emmènerons au Louvre dans la section des objets d'art pour commenter certaines œuvres, dont certaines d'ailleurs touchent la résurrection. Pour continuer ce programme, le lundi 9 avril, vous avez la conférence du groupe protestant des artistes de 12h à 13h30 avec donc un culte suivi de la conférence par Florence Blondon, pasteur à l'étoile. le grec biblique pour les progressants de 19h30 à 21h avec Aurore Mériot. Pour le 10 avril, lecture biblique de l'après-midi de 14h30 à 16h sur le thème de l'année Bergers et troupeaux animé par le pasteur Richard Cadou. Le sujet du jour sera « Je suis le bon berger ». Le 12 avril, jeudi, cœur de l'oratoire, répétition de 13h30 à 22h Salmono. Et j'ai oublié de remercier tout notre accompagnement musical, veuillez m'en excuser, c'est-à-dire Sarah Kim qui est à l'orgue, Fabien Auger et le chœur qui nous accompagnent ce jour. Le samedi 14 avril, il y a l'hébreu biblique découverte de 10h à 11h avec le pasteur Gilles Castelnau. Et ensuite à 11h, il y a le service d'action de grâce donné pour Marie-Annie Jougnot, donc à 11h ici même, et nous accompagnons dans nos pensées Sylvie Jougnot, sa fille, qui est si présente à l'oratoire. Parole et silence de 18h à 19h à la maison presbytérale, au quatrième étage, moment de partage autour de chants avec le pasteur Richard Cadou. Dimanche 15 avril, le culte à 10h30 sera animé par Pierre-Olivier Deschaux, théologien, professeur à la faculté de théologie. Et il y aura le concert de l'Armée du Salut à 16h au Temple. Je dois aussi vous faire part de la conférence qui aura lieu le mercredi 25 avril à 20h. Le sujet Adolphe Monod, un artisan paradoxal du réveil protestant français par Étienne Tissot, professeur de médecine et théologien, président de l'Église protestante unie de Lyon. Il a édite un livre qui est paru aux éditions Olivier Tan avec le même titre. Cette soirée sera présentée par le pasteur Richard Cadou. On me demande de vous rappeler aussi qu'il y a un livre d'or que vous pouvez signer pour le départ de Marc Pernaud et que son pot de départ aura lieu le mercredi 11, salle Mono, 19h. Alors, on m'a donné aussi un petit papier qui a un joli nom, qui s'appelle Philothéo. Ce sont une édition pour les enfants de philosophie et de théologie, Dieu, le monde et toi. C'est en vente à la librairie, m'a-t-on dit, pour le prix de 7 euros. Si vous voulez faire des cadeaux, voilà, on vous donne parfois des idées. Je vous souhaite un bon dimanche, mais avant, nous allons passer parmi vous pour l'offrande de ce jour.
Seigneur, accepte notre offrande d'un peu de notre argent, d'un peu de notre temps. Je vous invite à la prière d'intercession. Mon Dieu, je ne savais pas qu'il y aurait un encore. J'avais peut-être pensé que plus rien d'important ne me surviendrait. Je répétais peut-être par habitude des gestes dont j'avais perdu le sens. Et puis voici qu'il y a encore quelqu'un qui me découvre et que je découvre. Il y a encore un ami, un frère, un enfant qui m'appelle. Et voici qu'il y a encore une parole de toi à recevoir pour en goûter toute la force, l'espérance et la beauté. Il y a encore tout cela que je peux aimer et accompagner. Et puis il y a encore les plus petits d'entre nos frères dont je suis parfois et avec lesquels je puis combattre sans relâche. Je ne savais pas, mon Dieu, que je pourrais accueillir ce qui survient pour moi comme une grâce. Et puis voici que tu viens aujourd'hui et que ta présence me relève et me donne la confiance nécessaire pour travailler à plus de justice et de paix. Je ne savais pas, mon Dieu, qu'un jour je te prierais de rester avec moi jusqu'à la fin du monde. Et c'est ce que je te demande pour ce monde que tu as aimé au point de lui donner ton Fils. Et c'est ce que je te demande pour tous ceux qui me sont proches et que je te nomme maintenant dans le secret de mon cœur. Seigneur, je ne savais pas qu'encore je pourrais te prier. Mais je sais que toujours les mots me manquent. Aussi, avec mes frères, avec mes sœurs, tous ensemble, nous te disons. Notre Père, qui es aux cieux, bénir, c'est dire du bien sur quelqu'un, c'est lui souhaiter du bien et faire tout son possible pour que ce bien se réalise. Alors, frères et sœurs, souhaitons-nous tout le bien possible au nom de Jésus-Christ, notre frère et notre Seigneur. Le Seigneur nous bénit et nous garde. Le Seigneur tourne sa face vers nous et nous accorde sa grâce. En tout temps, en tout lieu, de toute manière, le Seigneur nous donne la paix. Amen.
balayeur.